BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Guillaume Paul.
Midi, il est midi, soyez les bienvenus dans 60 minutes business. Dans l'actualité de ce vendredi, il fallait s'y attendre. Depuis ce matin, la France ne reçoit plus du tout de gaz en provenance de Russie, de gaz par le biais de gazoducs en l'occurrence. Est-ce qu'il faut recommencer, ça y est, à s'inquiéter pour l'approvisionnement? Pas forcément pour tout de suite, mais pour cet hiver. On va voir ça bien sûr dans un instant. L'impôt minimal sur les sociétés, réunion de la dernière chance aujourd'hui du côté de Bruxelles pour se mettre d'accord, ne serait-ce qu'au niveau européen. Vous savez qu'il y a ce taux plancher de 15% qui est sur la table. Alors, les Polonais nous ont dit hier soir qu'ils étaient d'accord, mais la Hongrie de Viktor Orban, toujours lui, continue de faire de la résistance. On va vous raconter ça également dans quelques instants. On ira à Vivatech, bien sûr, pour le dernier jour. Et puis, Martin Hirsch, le patron de la PHP, qui annonce ce matin qu'il quitte ses fonctions en pleine crise de l'hôpital. Il estime qu'il n'a plus les moyens de ses ambitions, qu'il n'a plus les moyens de faire de l'hôpital quelque chose de différent après le Covid par rapport à ce qu'il était avant. On parlera de ça tout à l'heure avec un spécialiste du monde hospitalier sur BFM Business. Voilà en gros tout ce qu'on vous raconte, plus d'autres choses dans la première demi-heure, midi et demi, 13h, vous le savez, BFM Business avec vous. On répond à vos questions, on vous donne la parole, vous qui recrutez. C'est parti, on est ensemble jusqu'à 13h. Donc, on va dire que Vladimir Poutine a décidé de punir les dirigeants français, italiens et allemands pour leur petite visite en Ukraine hier. On va dire ça comme ça. Bonjour Mathieu Pechberti.
Bonjour Guillaume.
Donc c'est GRT Gaz, hein, gestionnaire du réseau de transport de gaz, qui nous a dit tout à l'heure, la France ne reçoit plus du tout de gaz de la Russie depuis quelques heures, c'est ça Mathieu?
Oui exactement, il n'y a plus de gaz russe qui vient en France depuis quelques heures. Alors il y a deux raisons, deux impacts, c'est-à-dire qu'évidemment les Russes ont réduit leurs importations, oui. Ce qui n'est pas du tout nouveau, on en parle depuis des semaines évidemment ici. Par rapport à l'année dernière par exemple, hein, les importations de gaz russe par gazoduc ont baissé de 60%. Oui. Voilà, et ça avait commencé évidemment dès le début de l'année, ça s'est accentué avec le conflit en Ukraine, donc on l'avait vu venir. Et même ces derniers jours, depuis 3-4 jours, GRT avait vu que les importations de gaz russes étaient à 10% de leur capacité habituelle. Donc, cette coupure totale, on s'y attendait, en tout cas les opérateurs de gaz en France s'y attendaient. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de gaz russe en Europe. En fait, il y a aussi une sorte d'harmonisation des opérateurs de gaz russe en Europe, ouais. Qui dispatchent finalement le gaz russe où il est le plus nécessaire. Je m'explique. Des pays comme l'Allemagne ou comme l'Italie sont beaucoup plus dépendants au gaz russe que ne l'est la France. L'Allemagne, c'est environ la moitié du gaz qui est du gaz russe, même un petit peu plus. La France, c'est 17%. L'Italie, c'est un peu moins de la moitié. Donc, la dépendance n'est pas la même. Et donc, du coup, le peu de gaz russe qui arrive en Europe va là où les pays en ont le plus besoin. Et donc, c'est aussi pour ça que la France n'en a plus. C'est pour privilégier, on va dire, les autres pays européens. Et aussi parce que la France remplit beaucoup ses stocks de gaz en ce moment avec du gaz provenant, cette fois, des États-Unis.
Donc, la France s'est sacrifiée une de toute façon, là, en l'occurrence.
Oui, parce qu'elle le peut aussi.
C'est
ce que je veux dire.
Mais évidemment, la question que je posais, c'est pour cet hiver, Mathieu. Et là, vous nous dites, finalement, quand on regarde là où on en est, du point de vue de la reconstitution des stocks, on est pas mal, finalement, aujourd'hui. Hein.
C'est ça, l'idée. Écoutez, on était pas mal. Je trouve que c'est un petit peu décéléré. Quand on regarde les chiffres, que je regarde toutes les semaines de remplissage des stocks, on est à 56% de remplissage des stocks. En général, à cette période-là, on est à 50%. Ouais. Donc, on est un peu au-dessus, mais on sent que ça s'est quand même un petit peu calmé là depuis quelques semaines. GRT, évidemment, se veut rassurant en disant que les stocks devraient être pleins, en tout cas en septembre, en octobre, 90%, 95% de leur capacité. En fait, la question, c'est la température qu'il y aura l'hiver prochain, ou c'est un hiver doux, et ça se passera globalement pas trop mal, avec quelques économies ici ou là. Si, en revanche, il y a des pics de froid, et donc des pics de consommation de gaz, pour nous, entre guillemets, les particuliers, il y aura des délestages prévus pour les grands consommateurs de gaz, c'est-à-dire les grandes industries. Le sujet, il est là. Pour le moment, les opérateurs français font venir énormément de gaz naturel liquéfié, donc ce gaz sous forme liquide par méthanier qui vient notamment des États-Unis, ils arrivent de manière très importante. Les importations de gaz naturel liquéfié ont augmenté de 60% par rapport à l'année dernière, donc c'est très important. Et donc, ça devrait compenser ces baisses d'importation de gaz russe. Mais la grosse interrogation, c'est la météo. Et ça, on ne pourra pas savoir.
Nous serons dépendants de la météo. Et ça, c'est une donnée nouvelle par rapport
au... S'il fait froid, il y aura un vrai sujet sur les délestages. Ouais. Sur le gaz, c'est très important.
Bon, on poursuit la conversation avec Didier Julien qui est avec nous au téléphone. Bonjour Didier Julien, président de Commodities and Resources. Bon, sur l'attitude de Vladimir Poutine, là, c'est le petit coup de pression un petit peu habituel, finalement. Sauf que là, on pousse un petit peu à l'extrême, pour le coup. La France se sacrifie. Comment est-ce que vous regardez ça, vous?
Poutine est toujours logique avec lui-même. Il a tout simplement décidé de précéder nos objectifs, L'objectif de la France, l'objectif de l'Europe, c'est de réduire sa dépendance vis-à-vis du gaz russe de 50 à 80 milliards de centimètres cubes pour la fin de l'année. Mmh. Eh bien, il nous force à le faire lui-même.
Vous le voyez, donc, à 100%, ce qu'on disait, il y a encore 40% des volumes de gaz qui transitent via ce fameux gazoduc Nord Stream. Est-ce que vous le voyez faire tapis et dire je coupe tout à 100% finalement?
Pour le moment, non, parce que ce gaz, bien qu'il dise l'inverse, il ne sait pas quoi en faire. Il n'y a pas de gazoduc entre Moscou et Pékin, et notamment tout le gaz qui vient du nord de la Yakoutie et de la Sibérie, il faudrait qu'il parte directement par méthanier, et ce n'est pas encore possible, donc il ne savait pas quoi en faire. Donc je ne vois pas encore faire tapis, comme vous le dites. Mais en revanche, ce que je vois très bien Poutine faire, c'est nous obliger à consommer plus rapidement que prévu les réserves que nous avons, qui se montent à environ, nos capacités de réserve, c'est environ 20% de notre consommation en Europe, ouais. C'est-à-dire environ 10 semaines. Et je le vois très bien nous obliger à les consommer plus rapidement que prévu, voire nous empêcher de les remplir, ces réserves, parce que en 2021, nous avons eu des réserves bien plus basse que d'habitude. En 2022, nous sommes en train de rattraper un retard pour le remplissage de ces réserves. Il faudrait que nous continuions à avoir le même rythme qu'au mois de mai, c'est-à-dire supérieur au mois de juin, et donc importer grosso modo 20% de gaz de plus que notre consommation annuelle.
Ouais.
Et là, je vous le dis très clairement, je ne pense pas que le GNL puisse nous offrir cette opportunité, bien que la France importe énormément de GNL, certes des États-Unis, mais la France est devenue le plus gros importateur de GNL russe.
La vraie question pour terminer, Didier, c'est Poutine pose ses pions, et nous commençons à réduire notre dépendance au gaz russe. On le disait avant la guerre, 55% du pétrole consommé par la Russie venait par l'Allemagne venait de Russie. Ils sont descendus à 35%. Nous aussi, nous accélérons avec d'autres partenaires. À quel moment pensez-vous que l'Europe sera en ordre de bataille pour annoncer la couleur, à savoir qu'elle va se désengager du gaz russe? C'est une question c'est de mois, clair, c'est une question d'années, ne serait-ce que de l'annoncer déjà, Didier.
C'est une question très claire. C'est une réponse très claire. C'est l'été 2024. L'Allemagne sera sortie du gaz russe à l'été 2024.
Oui.
Ce qui me laisse penser que l'Europe fera en sorte que la guerre en Ukraine ne cesse pas avant l'été 2024 pour remporter cette bataille à partir de l'été 2024 lorsqu'elle ne sera plus dépendante du gaz russe.
C'est une réponse très claire, évidemment, en l'occurrence. 2024, pour vous, c'est la date à cocher aujourd'hui.
C'est la date où l'Allemagne, c'est la date où l'Allemagne a promis sortir du gaz russe.
Oui.
L'Allemagne étant le plus gros consommateur de gaz en Europe. L'Italie est en second.
Oui.
Dès que le premier gros consommateur sort du gaz russe, à ce moment-là, on n'a plus de problème.
C'est son agenda qui primera en l'occurrence. Merci beaucoup. Merci Didier. Merci d'avoir été avec nous ce midi sur BFM Guillaume. Business. Didier Julien, président de Commodities and Resources. Donc, la température juge de paix. C'est ça que je retiens, Mathieu.
Ce qui est important dans ce qui vient d'être dit, c'est effectivement ce jeu des Russes de jouer la guerre du gaz sur la durée. Et quand, c'est très important ce qu'il dit sur Monsieur Julien sur la consommation des stocks et où les Russes jouent cette partition de se dire on va pousser les Européens à consommer leurs stocks plus vite que prévu et donc à avoir besoin de notre gaz beaucoup plus longtemps et non pas de couper éventuellement à la fin de l'année pour certains, mais de jouer la guerre sur la durée et évidemment aussi limiter ses volumes pour maintenir des prix très élevés parce que c'est comme ça quand même que la Russie gagne aussi de l'argent et donc tout ceci est fait pour durer.
La guerre du gaz, la guerre dans la guerre finalement. Merci beaucoup Mathieu Pechberti avec nous sur BFM Business. Midi 9, je vous le disais, réunion de la dernière chance aujourd'hui à Bruxelles pour se mettre d'accord déjà au niveau européen sur cet impôt minimal sur les sociétés. Vous savez qu'il y a un taux plancher de 15% qui est sur la table. La France veut l'imposer. La Pologne, qui faisait de la résistance, a dit oui hier soir. Le problème, ce sont les Hongrois qui, eux, continuent clairement à dire non aujourd'hui. Raphaël Couder, Thomas Asportas.
C'est un obstacle de dernière minute qui pourrait repousser le vote prévu aujourd'hui. Après des mois de négociations, l'accord sur l'imposition minimale des multinationales, qui nécessite l'unanimité des 27 États membres, devait être approuvé ce vendredi lors du Conseil des ministres des Finances. Mais il est désormais bloqué par la Hongrie. Budapest estime finalement qu'il serait dangereux d'alourdir la charge fiscale qui pèse sur les entreprises hongroises à un moment où l'économie européenne est mise à mal par la guerre. Un nouveau contretemps qui intervient alors que la Pologne a, elle, finalement levé son veto il y a quelques heures. Les deux pays sont en désaccord avec la Commission qui leur refuse l'accès au fonds du plan de relance européen en raison de violations à l'état de droit. De son côté, Emmanuel Macron joue gros sur ce dossier, lui qui comptait lancer son second mandat avec la mise en place définitive de cet impôt minimum. Un enjeu politique alors que la présidence française de l'Union européenne se termine dans quelques jours, mais aussi financier. D'après le Conseil d'analyse économique, l'impôt minimum rapporterait 6 milliards d'euros par an à la France.
Voilà, en tout cas, si on arrive à se mettre d'accord entre Européens tout à l'heure du côté de Bruxelles, on va en parler ça aussi avec Jean-Philippe Delsol qui est avec nous au téléphone. Bonjour Monsieur Delsol.
Bonjour Guillaume Paul.
Président de l'IREF, l'Institut de Recherche Économique et Fiscale. Vous entendez les arguments des Hongrois pour s'y opposer? Comment est-ce que vous regardez ce débat sur l'impôt minimum, vous, Monsieur Delsol, personnellement?
J'entends parfaitement les arguments et des Polonais hier, jusqu'à hier, et des Hongrois aujourd'hui. Le vrai problème, d'abord, c'est que l'Europe a voulu se saisir de cet aspect d'un accord international, de cet aspect fiscal, alors même que l'Europe n'a pas de compétences fiscales. Donc en réalité, l'Europe veut toujours aller au-delà et au-delà des traités et de son objet qui ont fait l'objet, eux, d'un accord de ces peuples. Donc,
L'Europe veut montrer qu'elle sert à quelque chose, Monsieur Delsol. Ça, malheureusement, on ne peut pas lui en vouloir.
Elle servirait beaucoup mieux les nations qui la composent en les respectant. Or, elle ne les respecte pas. Elle a voulu aussi, à l'encontre de la Pologne et de la Hongrie, aller au-delà de ses compétences et les obliger à accepter des dispositions de droit qu'elles ont la liberté de choisir pour elles-mêmes. Donc, en réalité, l'Europe s'est mise elle-même dans un piège en voulant se saisir de cette question fiscale, alors même que ça n'est pas son rôle. Bon, ceci étant, à partir de là, est-ce que véritablement les pays d'Europe ont tort ou raison de s'opposer, notamment la Pologne hier et encore la Hongrie aujourd'hui, à cet accord sur un impôt minimal de 15%? De mon point de vue et du point de vue de l'IREF, oui, ces pays ont raison sur le fond, parce que, en fait, la concurrence fiscale est meilleure que l'harmonisation fiscale. Juste pour essayer de faire comprendre à nos auditeurs, tout le monde sait que la concurrence entre les entreprises, c'est ce qui permet aux consommateurs d'avoir des meilleurs produits moins chers.
Oui.
Eh bien, la concurrence fiscale, c'est ce qui permet aux contribuables de chaque pays d'avoir un peu moins d'impôts pour plus d'efficacité. Le jour où il y a de l'harmonisation fiscale entre tous les pays, les gouvernements feront ce qu'ils voudront à l'encontre des contribuables. Et donc, l'idée d'harmoniser la fiscalité, c'est pas forcément une bonne idée. Mais cette histoire montre aussi, d'ailleurs, que l'idée de vouloir que la fiscalité soit du ressort de l'Europe et qu'elle soit décidée à une majorité seulement et non pas à l'unanimité, comme c'est le cas aujourd'hui, serait là aussi à l'encontre des nations et probablement des peuples européens, parce que du coup, eh bien, il y a un certain nombre de pays qui se verraient imposer des mesures qu'ils ne voudraient pas.
Et, ouais, mais
et donc je trouve qu'on devrait réfléchir sur ce qui se passe plutôt que de vouloir critiquer les Hongrois qui, avec le système juridique desquels je ne suis pas d'accord d'ailleurs, mais je respecte leur liberté si vous voulez.
Eh oui, mais c'est une question de dumping fiscal, c'est le sens de l'histoire. Les États cherchent de l'argent, veulent lutter contre le dumping sous toutes ses formes. Ça va passer, monsieur Paul, d'une certaine façon.
La différence entre vous et moi, c'est que moi, je ne crois pas au sens de l'histoire. Je crois que c'est nous qui faisons l'histoire et qu'on peut essayer de passer des mesures qui sont différentes de celles qu'on voudrait nous imposer au nom d'un présupposé sens de l'histoire qui n'existe pas.
Voilà. La France est arc-boutée, en tout cas, et veut absolument arriver à cet accord.
Et elle a tort. C'est juste de l'idéologie. C'est juste de l'idéologie.
Ça sera ce que défendra en tout cas Bruno Le Maire aujourd'hui du côté de Bruxelles. Merci beaucoup Jean-Philippe Delsol.
Merci.
Merci d'avoir été avec nous quelques minutes. Président de l'IREF, donc l'Institut de Recherche Économique et Fiscale, avec nous sur BFM Business. Il est bientôt midi à quart. On va sur les marchés tout de suite retrouver Antoine depuis le siège d'Euronext à La Défense. Bonjour Antoine. On a un CAC 40 qui est bien, qui a l'air de bien vouloir terminer la semaine apparemment, Antoine.
Enfin.
Enfin.
Eh oui, enfin, on a un rebond et en plus sensible sur des beaux volumes. Hein, 2 milliards d'euros d'actions négociées à l'heure actuelle, c'est quand même nettement plus que d'habitude. Mais il aura fallu quand même les quatre sorcières. Vous savez, c'est les quatre types d'options et d'échéances sur les contrats dérivés, hein, sur les indices qui tombent en même temps aujourd'hui. Il aura fallu ce phénomène technique-là pour obtenir un rebond qui veuille bien aller tenir jusqu'à la mi-journée. On va voir hein, pour le reste de la journée, mais on sort d'une semaine où on était complètement rincé par l'actualité banque centrale, que ce soit la BCE, que ce soit la Fed, que ce soit la Banque Nationale Suisse hier, ainsi que la Banque d'Angleterre qui reste sur des dynamiques monétaires assez fortes, à l'exception de la BCE hein, qui reste sur ses propres lignes. On a des marchés qui sont un peu déséquilibrés, qui ont connu de fortes séances de consolidation, qui avaient besoin de se reprendre, et là c'est le cas hein. Le CAC 40 donc plus 1,22, on est à 5957 points. Du côté des autres places européennes, plus 1,29 pour l'Eurostoxx 50, le DAX à Francfort plus 1%. À noter que ce qui participe aussi de ce rebond, c'est le léger apaisement autour des taux d'intérêt sur le marché obligataire. On est à 3,2% sur la dette américaine, à 1,66 pour la dette allemande et à 2,17 hein, pour la dette française. Ça se calme quand même. Et puis le pétrole qui est un petit peu consolidé, même si ça a tendance à repartir un petit peu à la hausse hein, ces dernières heures. $120 pour le brut léger américain et 120 pour le brut de mer du Nord et 118 pour le brut léger américain.
On regarde les valeurs, Antoine, les cycliques et les valeurs de croissance rebondissent hein, ce midi.
Oui, avec en tête des progressions le secteur de l'aéronautique. C'est vrai qu'il y a ces perspectives de super commandes en Inde pour Airbus. Airbus qui gagne 3,5% à 96,32€. On a Safran plus 3,52 à 92,90€. Sinon, derrière, on a effectivement plutôt des valeurs de croissance. À noter LVMH qui gagne 2,2% à 551,10€. On a Worldline dans la techno qui gagne 2% à 34€. Et puis à noter en queue de peloton des valeurs plutôt défensives. Eurofins Scientifique qui perd 1,9% à 74,84€. Carrefour qui aura signé quand même une belle résistance hein, malgré les tourmentes boursières de ces derniers jours. Carrefour qui perd 1,5% à 18,35€. On a également Alstom qui perd 0,8% à 24,31€. Le secteur de l'énergie pas forcément très bien orienté. Total hein, qui recule de 0,38% à 51,77€. Et puis hors CAC 40 à noter Score moins 1,8. On est à 21,68 ou Maison du Monde moins 63 à 10,26. La plus forte hausse du SBF 120, tiens une fois n'est pas coutume, elle est pour Orpea qui gagne 7,4% à 22,82€. Les investisseurs qui reviennent sur le secteur des maisons de retraite, hein, puisque Korian gagne 3,6% à 14,80€. Le CAC plus 1,19, 5956 points. Et du côté des devises, l'euro face au dollar cote à 1,0522. À noter le Bitcoin, toujours sur le fil des 20 000 $. Semaine difficile dans la crypto aussi, à 20 800.
Merci beaucoup Antoine. Antoine Lagaudré depuis le siège de Euronext à la Défense pour BFM Business. À lundi Antoine, même heure, même endroit.
Bon avec plaisir. À lundi.
Avec comme plaisir. D'habitude, bien évidemment. Midi 17, on marque une petite pause. Dans un instant, Martin Hirsch qui quitte la PHP et qui explique clairement pourquoi on va vous raconter ça. Et puis on va aller du côté de Vivatech, bien sûr, retrouver Frédéric Simotel parce que Luca De Meo, notamment le patron de Renault, est en train de s'exprimer et de faire des annonces. On revient dans un instant, à tout de suite.
60 minutes business. Toute l'info éco et business à la mi-journée sur BFM Business. BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Guillaume Paul.
Voilà, midi 21, on est de retour dans 60 minutes business. Alors je vous disais, c'est l'autre information qui nous est parvenue tout à l'heure. Elle survient en pleine crise de l'hôpital public puisqu'on a appris que Martin Hirsch, qui était directeur général de l'APHP depuis 9 ans, depuis 2013, Martin Hirsch a annoncé ce matin qu'il allait quitter ses fonctions. On va en parler quelques instants parce que c'est un événement quand même. Avec Frédéric Bizard qui est avec nous par vidéo interposée. Bonjour Monsieur Bizard, vous êtes économiste, spécialiste des questions de santé et de protection sociale. La raison qu'il l'évoque, il le dit dans une lettre adressée au personnel, c'est qu'il pense ne pas pouvoir tenir un engagement qu'il avait pris en mars 2020, au moment du pic du Covid. Il dit « je voudrais faire de l'hôpital après le Covid quelque chose de différent de ce qu'il était avant ». Et il dit « aujourd'hui je n'aurai pas les moyens de ses ambitions ». Qu'est-ce qu'il veut nous dire en filigrane, Martin Hirsch, pour vous aujourd'hui?
Mais je pense que il faudrait lui demander exactement ce qu'il veut lui dire, mais je pense que Martin Hirsch est dans une situation difficile, parce que si c'est l'hôpital en général qui va mal dans un système de santé qui est vraiment dans une situation de crise, la PHP est vraiment le symbole de cette crise, hein, qui est multiforme. C'est une crise sociale, c'est une crise financière, c'est une crise d'attractivité. Il faut bien voir que la PHP, c'était le Graal du système de santé du XXe siècle en France, où tous les étudiants en médecine s'arrachaient les postes de la PHP. Et maintenant, on manque de candidats pour des postes comme chef de clinique et autres. Donc, il y a une désaffection de la PHP qui, encore une fois, était le sommet de la pyramide. Et je pense que Martin Hirsch n'a pas les solutions. Quand je lis ce qu'il a pu faire paraître il y a un mois comme solution, on est dans une vision très technocratique et avec une absence de vision d'ensemble de ce qu'il faut faire dans le nouveau modèle de santé. Il y a un point qui est important, c'est que Martin Hirsch n'est pas simplement le directeur de la PHP, ça a été un personnage très important dans les 30 dernières années pour notre système de santé, hein, depuis les années 20, la fin des années 80. Donc ça fait une trentaine d'années que Martin Hirsch, en fait, essaye d'imposer sa vision qui est une vision de toujours plus d'État, c'est-à-dire de permettre à l'État d'avoir une mainmise sur l'ensemble des acteurs du système de santé. Et il est arrivé assez remarquablement à ses fins, puisqu'aujourd'hui nous sommes dans un système vraiment très technocratique avec l'État qui a tous les pouvoirs sans contre-pouvoir. Et je pense que c'est ça, la source principale de l'échec de ce système, c'est une gouvernance qui est beaucoup trop technocratique.
On rappelle qu'Emmanuel Macron fait alors de la santé en plus l'une de ses grandes priorités du prochain quinquennat, du quinquennat qui vient de s'ouvrir. Pour vous, les pistes sur lesquelles il va falloir réfléchir, accélérer même désormais.
Si franchement, on les connaît. Il faut changer de paradigme, passer d'une approche qui était hospitalo-curative à une approche essentiellement préventive de maintien en bonne santé, c'est-à-dire c'est la prévention par excès et le curatif par défaut. Deuxièmement, ce service public, qui est essentiellement un service public hospitalier, c'est-à-dire centré sur l'hôpital, doit devenir un service public territorial de santé, c'est-à-dire qu'il faut définir des territoires de santé. Moi, on a proposé au sein de l'Institut Santé 450 territoires de 150 000 habitants, mais tout ça peut être discuté. Et il faut organiser à partir du territoire en décloisonnant. C'est plus une question d'hôpital, de ville ou d'EHPAD, c'est une question de répondre à des besoins de santé. Donc ça, c'est la deuxième chose. Troisième chose, il faut réinventer une démocratie sanitaire. Je vous ai dit, ce pouvoir uniquement dans les mains de l'État ne fonctionne pas. Ça fait une quinzaine d'années qu'on a cette gouvernance-là. Il faut réinventer ce qui avait été inventé en 1945. C'est une démocratie sociale et sanitaire à partir des territoires, avec un État qui doit être un État visionnaire, qui doit être un État qui propose une loi d'orientation et de programmation sanitaire à 5 ans et qui donne une vraie vision aux acteurs de santé sur le long terme.
Mais oui, mais l'autre schéma, on est en quelques secondes vraiment, Frédéric Bizard, mais vous l'avez dit, décloisonner, il faut récupérer, il faut arriver à réconcilier les médecins, médecine de ville et hôpital. Ça aussi, c'est un grand chantier. Ça fait des années aussi qu'on en parle, finalement.
C'est pas si compliqué que ça à faire. Donc, il faut réinventer les carrières. Le temps plein hospitalier qui est issu des ordonnances de Bray de 58, vous voyez bien qu'aujourd'hui, il ne peut plus être imposé à tout le monde. Ceux qui veulent le conserver, le conservent. Mais il faut proposer aux jeunes générations des carrières partagées entre l'hôpital, la ville, on a proposé le 3-2, c'est-à-dire 3 jours à l'hôpital, 2 jours en ville. Il y a différentes façons de faire. Il faut repenser l'ensemble des carrières, permettre à la ville d'être aussi à l'hôpital. Vous voyez, il faut vraiment décloisonner, mais c'est l'humain qui décloisonne, c'est pas le digital. Le digital vient donner plus de pouvoir à ces décloisonnements, mais c'est l'humain qui décloisonne.
Merci beaucoup Frédéric Bizard, merci d'avoir été avec nous quelques minutes ce midi, économiste de la santé, spécialiste des questions de santé et de protection sociale, président de l'Institut Santé. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur BFM Business. Midi 25, on parlait de digital, on va y rester. Parce que quand même, on va pas terminer la semaine sans aller faire un tour du côté de Vivatech où il se passe encore beaucoup de choses. Et on va retrouver Frédéric Simotel qui est sur place pour BFM Business. Bonjour mon cher Frédéric. D'abord, le temps fort de la matinée, c'est Luca De Meo, le patron de Renault, qui s'est exprimé et qui a fait des annonces assez significatives. Dites-nous tout, Frédéric.
Oui, vous vous souvenez, il y a plusieurs mois déjà, on avait lancé, Luca De Meo avait lancé la République Software. Hein, Luca De Meo qui dit toujours, nous ne sommes plus un constructeur auto qui intégrons de la tech, mais une boîte de tech qui produit des autos. Et donc, ils ont fait cette alliance République Software avec Orange Business, Orange Business, avec ST Micro, avec Dassault System, avec Atos, avec Thales. Et donc là, ça y est, tous les patrons sont là. Hein, Patrice Kane, même Rodolphe Belmer d'Atos, Bernard Charles, la patronne d'OBS, le patron de ST Micro, pour parler. Alors, quatre annonces. Alors, voilà, c'est les premières annonces un peu concrètes de cette République Software. La première, c'est une plateforme de cybersécurité pour les véhicules. Et oui, évidemment, les véhicules vont devenir de plus en plus autonomes et à la fois de l'électronique pour le média, pour à l'intérieur du cockpit, mais aussi de l'électronique dans les moteurs, pour piloter les roues, enfin tout cet ensemble-là, eh bien il faut sécuriser tout ça. Donc première plateforme de cybersécurité avec Thales et Orange. On a aussi une borne privée, vous savez, ces bornes électriques arrivent, eh bien ils vont créer une borne, mettre en place, enfin concevoir une borne privée avec Thales, Orange et STMicro, une borne de recharge électrique. Un programme aussi de data pour les territoires, et oui, avec Renault, avec Orange, ils savent un peu vers nos flux de circulation, eh bien ils vont proposer ça au territoire, voilà, pour éviter tous les engorgements. Et puis un quatrième programme, lui c'est un programme de recrutement, évidemment c'est l'un des thèmes clés aussi de Vivatech, recrutement. Ils vont travailler avec l'EFRAY pour former 2600 jeunes, et puis ce que l'on dit du reskilling aussi de compétences.
Frédéric, on a beaucoup parlé de l'actu de grosses entreprises, vous nous parlez de Renault, mais ce que vous vouliez nous dire, c'est que sur ce salon on voit beaucoup de chercheurs de l'INRIA, du CNRS, de Polytechnique. Les chercheurs sont là, et la bonne nouvelle apparemment, c'est que tout ce petit monde, chercheurs, entrepreneurs, investisseurs, sont en train de se parler de plus en plus. Ça, c'est une bonne nouvelle, évidemment, hein.
Exactement, et c'est ce que l'on voit. On s'est mis volontairement devant le stand du CNRS, hein, qui présente plusieurs startups. Alors il y en a quelques-unes, hein. Kairos justement, qui est juste derrière moi, qui récupère les datas des satellites Copernicus pour regarder un peu tous les flux, bah tiens, les émissions de gaz de méthane par exemple, voilà, des choses qu'ils vont ensuite revendre à des pays, qu'ils vont revendre à des entreprises. On a d'autres startups qui sont dans la santé, la Genoskin. On a le développement durable, comment décarboner l'industrie, avec Funcell aussi, vous savez, ce sont ces batteries papier. Et on voit vraiment ces patrons de start-up. Alors c'est soit de l'essaimage, des gens qui sortent du CNRS ou de l'INRIA et qui vont créer leur entreprise avec voilà, cet esprit entrepreneurial, soit des patrons de start-up qui vont venir chercher davantage de compétences dans la recherche. Donc on voit ici le CNRS. Alors il y a de la recherche que l'on comprend, hein, mais après il y a de la recherche aussi beaucoup plus fondamentale dans les traitements du cancer, dans on va analyser les particules là, qui sont dans l'air. Voilà, il y a beaucoup de sujets. Et puis côté INRIA, eh bien alors dans la deep tech. Et puis côté INRIA, on a beaucoup de choses, tiens, sur le beaucoup plus concrètes, le calcul d'itinéraire, ils ont signé avec EDF Framatome. Enfin voilà, il y a vraiment ce lien, voilà, qui est en train de se faire entre ces start-up, ces centres de recherche, et on pourrait vous en citer des tas d'exemples ici sur Vivatech.
Et ben ça continue beaucoup d'effervescence. Merci Frédéric, vous nous confirmez, alors dernière journée pro, demain journée grand public, hein, c'est ça, du côté de la porte de Versailles, hein, c'est comme ça que...
Demain journée grand public, ouais. Si vous avez trop chaud, à Paris, ben venez ici, c'est bien climatisé, je pense que je vais y rester demain certainement.
Voilà, il va rester, il va faire même la fermeture dimanche, il sera là même après la fermeture. Merci beaucoup Frédéric Simotel, qui nous a accompagné bien sûr tout au long de cette semaine du côté du salon Vivatech à la porte de Versailles sur BFM Business. Midi 29, on marque une petite pause. Dans un instant, je vous redonne les grands titres de l'actualité, puis Thomas Schnell arrive dans la foulée. BFM Business avec vous comme tous les jours, on répond à vos questions, on vous donne la parole, vous qui recrutez. À tout de suite.
60 minutes business. Toute l'info éco et business à la mi-journée sur BFM Business. 60 minutes business, BFM Business avec vous.
Avec vous, avec nous et avec Thomas Schnell aujourd'hui. Bonjour mon cher Thomas.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous.
Je rappelle les modalités évidemment pour nous écrire, nous poser les questions, nous faire des offres d'embauche comme tous les jours. Hashtag BFM Business avec vous, les réseaux sociaux. Avec vous, @bfmbusiness.fr, l'adresse internet, le site bfmbusiness.com, et je vous rappelle que tout ça, c'est totalement gratuit. De quoi est-ce qu'on parle, Thomas, pour terminer la semaine ?
On se demande pourquoi est-ce que le temps du voyage d'affaires est enfin revenu.
Ah, et pourquoi pas ?
Il prend un peu de mal et un peu de temps avant de repartir. Notre spécialiste des voyages d'affaires est avec nous aujourd'hui, Raphaël Bourneuf. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Raphaël.
Fondatrice de Bonport. On le disait, l'activité économique a repris. Tout le monde le constate aujourd'hui. Les entreprises françaises affichent même de belles performances, supérieures parfois à 2019. Mais le voyage d'affaires peine un peu. Pourquoi est-ce que le retour à la normale dans les voyages d'affaires est-il si long, Raphaël ?
C'est-à-dire que la reprise économique et des déplacements possibles est très récente, hein. On a observé cette reprise-là depuis à peine mi-mars 2022. Donc c'est à ce moment-là que les contraintes liées au voyage et les contraintes sanitaires principalement ont été levées. Donc c'est très récent. Il y a eu également un phénomène de rattrapage des séminaires, etc., qui pouvaient se faire plus à proximité. Mais là, on est vraiment en train d'assister à une reprise très net des déplacements, et plus seulement sur le ferroviaire et sur le domestique, comme ça avait été le cas depuis justement mi-mars et un peu avant, mais aussi l'aérien qui est en train de reprendre et des trajets un peu plus loin.
Et puis un témoignage à ce sujet, notamment, c'est Michel qui nous écrit « Les outils numériques ont fait preuve d'efficacité pour remplacer de nombreuses rencontres d'affaires ». Ben évidemment, c'est ça aussi l'explication.
Oui, tout à fait. Ouais. Exactement. La question des visioconférences est cruciale pour analyser ces phénomènes-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les entreprises, les collaborateurs se posent systématiquement la question « Est-ce bien utile que je me déplace ?» Ou cette réunion peut-elle se faire à distance en visioconférence ?
Absolument. Thomas ?
Oui, mais alors justement, les visioconférences vont-elles supplanter durablement les voyages d'affaires ?
Alors, c'est difficile à dire à ce stade. Ça peut encore évoluer. Le secteur s'accorde à dire que 15 à 20% à peu près des déplacements pourraient être supplantés par les visioconférences. Mais c'est quelque chose auquel il faut laisser un peu de temps, parce qu'on sait aussi qu'il y a d'autres problématiques aujourd'hui qui entrent en compte. On est encore dans une période d'incertitude économique, la guerre, etc. Donc les entreprises, je pense aussi, limitent les déplacements. Et c'est quelque chose qui pourrait évoluer dans 4, 5 ans si la situation s'améliore un petit peu.
Oui, c'est un témoignage qu'on a recueilli de Guillaume Van Gaver. La visioconférence est très peu efficace pour les réflexions d'ordre stratégique et de brainstorming. Aujourd'hui, quelles sont les raisons qui poussent les entreprises à envoyer leurs collaborateurs dans des voyages d'affaires ? C'est plus pour les relations clients ou c'est plutôt pour des séminaires, des choses internes à l'entreprise ?
Alors les deux, mais on va dire il y a des priorités différentes selon la durée des voyages. Clairement, les entreprises ont réactivé l'activité de séminaires, de rencontres internes à l'entreprise, mais ça se fait plutôt dans des localités proches. Ouais. Alors, on n'a pas besoin d'aller comme c'était le cas.
Pas 10 heures d'avion pour aller.
Oui, voilà. Alors que ça avait parfois été le cas par le passé. Bon. Donc aujourd'hui, il y a vraiment cette prise en compte de l'éloignement. Pour les clients, c'est beaucoup plus ouvert. Là, la priorité est revenue à créer, à établir des contacts, à nouer, à maintenir du lien. Et pour ça, on peut s'éloigner plus aujourd'hui. Ouais.
Oui, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, voilà, vous parlez de la durée, vous parlez de la distance également qui ont été raccourcies. Est-ce que ça veut dire que, voilà, par exemple, les locations de voitures, c'est devenu le moyen privilégié aujourd'hui pour se déplacer, ou on prend le train, on prend l'avion ? C'est quoi aujourd'hui la modalité?
Alors, je vais venir sur les deux premiers. Le train, très clairement, et ça, on le voit dans les chiffres de la SNCF,
qui
parle énormément. Voilà, c'est très net. Donc, les déplacements pour loisirs ont explosé depuis que c'est de nouveau possible, donc début d'année, comme je le disais. Les déplacements pro ont repris de manière très, très nette sur le domestique et le ferroviaire depuis mi-mars. Et l'aérien est en train de revenir. Et clairement, la voiture aussi, pendant la période Covid, avait énormément progressé pour toutes ces raisons, parce que là, on sait que la voiture, c'est plus sécurisant.
Absolument. Absolument.
C'est ça. Est-ce qu'on sait aujourd'hui quel type d'entreprise considère toujours le voyage d'affaires comme nécessaire au développement de l'activité ?
Alors, je dirais, les petites et moyennes entreprises, ça l'a toujours été pour elles pendant la période de Covid, et c'est elles qui ont continué à faire des déplacements pro prioritairement pendant les périodes où il y avait encore beaucoup de restrictions sanitaires. Là, aujourd'hui, je pense sincèrement que c'est vrai de toutes les tailles d'entreprise, y compris les grands groupes qui ont recommencé à voyager massivement.
Ouais. Alors, quels exemples est-ce que vous avez, par exemple, de déplacements professionnels qui ne peuvent pas être remplacés par une visioconférence ?
Une rencontre client. C'est-à-dire dès lors qu'il y a...
Ça, c'est les retours qu'on a déjà, la retour.
Oui.
Évidemment, bien sûr, ça ne remplace pas, quoi.
Exactement. Ouais. C'est indispensable de se voir. Enfin, la gestuelle n'est pas la même quand on se voit en présentiel. Je veux dire, la visioconférence permet d'échanger, de s'échanger des mots. Mais il y a plein de choses qui échappent à la visioconférence.
Absolument.
Tout se dit entre les lignes, peut-être, en tout cas, et avec de l'humain. Ça veut dire aujourd'hui que les ETI, les PME, elles devraient se remettre à consacrer une partie de leur budget justement au voyage d'affaires. Est-ce qu'on arrive à l'estimer par rapport au chiffre d'affaires? Combien est-ce qu'on peut dépenser dans les voyages d'affaires?
Alors là-dessus, je ne suis peut-être pas la mieux placée pour vous répondre. Je ne vais pas pouvoir vous donner une estimation chiffrée, mais très clairement, on sait que ces entreprises-là allouent une partie et ont continué de la louer pendant la période Covid, et je pense que ça augmente actuellement. Nous, on le voit dans notre activité, en tout cas.
Moins de deux minutes, encore une ou deux petites questions, peut-être, Thomas ?
Oui, on va parler des grands groupes maintenant, avec notamment la guerre en Ukraine, il y a eu l'épidémie auparavant. Est-ce que le recours aux agences de voyage est indispensable pour les grandes entreprises ?
Alors, je pense que c'est un partenaire très important, oui. La profession et les entreprises elles-mêmes s'accordent à dire qu'il y a énormément de valeur à apporter du fait de ce nouveau contexte, Covid, mais auquel s'ajoute la guerre en Ukraine. Ouais. Et les collaborateurs qui voyagent éprouvent des angoisses. peut-être des craintes.
C'est pour de la sécurité, c'est ça.
Exactement. Ouais, ouais. Donc il faut que l'entreprise soit en capacité d'apporter des mesures, soit réactive, et ça c'est un apport que peuvent avoir les agences.
Ouais. En ce qui concerne l'hébergement, une fois qu'on est arrivé sur place, on sait comment ça fonctionne. Si on passe par des agences, plutôt par des plateformes, par Airbnb, on imagine que ça a dû augmenter pendant l'épidémie. Aujourd'hui, c'est quoi l'hébergement privilégié pour les voyages d'affaires?
Alors, je pense que ça reste encore les hôtels traditionnels et pour les canaux de réservation, on a assisté ces dernières années à une augmentation des réservations en direct par les employés. Mais justement, du fait de ce contexte-là, les agences, enfin les entreprises ont envie d'avoir ce suivi et de pouvoir localiser les employés. Donc c'est
toujours des notes de frais. Ouais. Une dernière petite question. Allons-y sur les nouveaux lieux de travail peut-être aujourd'hui. Oui. Voilà, un ordinateur, une partage de connexion. C'est où aujourd'hui qu'on travaille le plus quand on est en voyage d'affaires?
Alors, les hôtels ont aménagé pour en grande partie leur lobby pour pouvoir accueillir ces nouveaux digital nomades qui sont désormais salariés. C'est plus seulement les start-upers et les indépendants. Hein. Aujourd'hui, c'est vraiment toutes les professions télétravaillables. Donc, on travaille dans les lobbies d'hôtels, on travaille dans les cafés et puis des lieux comme Bonport, vraiment dédiés au travail en mobilité qui permettent d'apporter des solutions, une bonne connexion, la possibilité de s'isoler.
Ben voilà, le voyage d'affaires avant, après. On est rentré dans une nouvelle ère, évidemment. Merci beaucoup, en tout cas, Raphaël. Merci de venir nous voir pour parler de ce.
Merci.
Ce sujet des voyages d'affaires, Raphaël Borneuf, fondatrice de Bonport, avec nous sur BFM Business. À très vite, avec plaisir. Midi 42, Thomas, on marque une petite pause.
Et dans un instant, on recrute.
Ben oui, à tout de suite.
60 minutes business. Toute l'info éco et business à la mi-journée sur BFM Business. 60 minutes business. BFM Business avec vous.
Allez, midi 44, Thomas, c'est l'heure de recruter en direct, bien évidemment.
Hein. On recrute.
On recrute dans la Green Tech ce midi avec Vincent Briand. Bonjour.
Bonjour. Bonjour
Vincent, bienvenue.
Fondateur de DeepKey Green Tech, une pépite du secteur de l'immobilier. Vous êtes là pour inverser la tendance de l'immobilier qui est particulièrement émetteur d'effets de gaz à effet de serre. Comment on fait pour inverser cette tendance-là?
Tout d'abord, bonjour et merci de me recevoir.
Bonjour.
Je suis très, très heureux. Il y a deux mois, nous, comme vous le savez, nous venions de lever 150 millions d'euros et nous tablions déjà à l'époque sur 200 recrutements au cours de l'année 2022. Et je suis très heureux de vous dire qu'on a revu à la hausse ces objectifs qui sont déjà ambitieux puisque c'est 300 personnes que nous allons recruter cette année. 300 personnes pour lutter, comme vous le disiez, contre le changement climatique et faire en sorte que l'immobilier, qui est un secteur extrêmement émetteur, c'est 25% des émissions de CO2 en France.
Comment ils émettent des gaz à effet de serre? Ça ne paraît pas concret, un immeuble en soi.
Mais en fait, la façon dont on construit le bâtiment, les matériaux qu'on utilise d'un côté, et puis de l'autre, la façon dont on l'utilise, les consommations d'énergie, la climatisation en ce moment, tout ça, ça émet du CO2. Et en 2014, lorsqu'on a créé, qu'on a associé DeepKey, Emmanuel Blanchet, eh bien, on était frustrés. Frustrés de voir que ce secteur, en fait, il n'avait pas de visibilité, donc pas de marge de manœuvre pour mettre en œuvre des actions concrètes de réduction. Et c'est, comme je vous le disais, très paradoxal, parce que ça émet énormément.
Et donc aujourd'hui, voilà, les bâtiments du secteur tertiaire doivent réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Quelles solutions on peut leur proposer à cet immobilier pour réduire l'empreinte carbone?
Concrètement, déjà, c'est à faire une photographie pour comprendre de manière fiable quelle est la performance actuelle de ces bâtiments, les prioriser et identifier quelles actions on peut mettre en place. Par exemple, remplacer une pompe à chaleur par une pompe à chaleur plus performante, revoir les températures de consigne ou au contraire, isoler l'enveloppe du bâtiment pour réduire l'impact du bâtiment sur le climat.
Et là-dessus, vous avez besoin de plusieurs indicateurs pour récolter les données. Bien sûr, c'est là-dessus que vous travaillez principalement au sein de DeepKey.
Concrètement, on est une entreprise logicielle de 180 personnes aujourd'hui qui édite un logiciel en ligne, qui collecte cette information automatiquement. Vous voyez les consommations d'énergie, les températures extérieures, et puis qui va identifier sur quel bâtiment on doit réaliser quelle action.
Et donc, Vincent, vous recrutez 300 personnes d'ici la fin de cette année et 300 de plus d'ici la fin de l'année prochaine, qui nous font 600. C'est ça l'idée.
Exactement, l'idée, c'est qu'on va être 800 quasiment fin d'année prochaine.
Alors, en une grosse minute, quels sont les profils que vous recherchez, dites-nous, alors?
Il y a déjà une vingtaine de profils ouverts. On recherche des commerciaux, des gestionnaires de grands comptes, des développeurs informatiques, mais aussi des chefs de projet clients. Par exemple, et donc c'est essentiel pour nous d'avoir tous ces profils pour aider nos clients à mettre en place les actions d'économie, parce que l'important, c'est quand même qu'ils aient un impact, et un impact réel sur leur patrimoine.
Et il y a des résultats?
Oui, je prends un exemple d'un de nos clients qui est un gestionnaire de centres commerciaux, Clépierre, c'est un partenaire avec qui non seulement on partage les mêmes valeurs, mais aussi les mêmes ambitions. En l'espace d'une petite dizaine d'années, ils ont réduit de plus de 70% leurs émissions de CO2 sur leurs centres commerciaux.
scientifique data, manager produit, customer success. Il vous faut aussi des talents dans le marketing, la communication, des responsables de grands comptes pour aller démarcher de nouveaux clients. C'est ça, vous allez doubler votre chiffre d'affaires ?
On double nos chiffres d'affaires tous les ans et effectivement, on a besoin de tous ces profils, à la fois pour faire parler la donnée existante, hein, c'est au cœur de notre technologie, de nos stratégies, de faire parler ces données avec des algorithmes d'intelligence artificielle. Et pour cela, on a besoin de data scientists, de scientifiques de la donnée, mais aussi de développeurs informatiques pour aider nos clients à savoir où est-ce qu'ils doivent appuyer pour réduire leur impact.
Poste à pourvoir en France, pas seulement, hein. Vous êtes présent dans pas mal de pays aujourd'hui.
Oui, on suit 300 clients dans 39 pays dans le monde et on recrute effectivement un peu partout en Europe et très prochainement aux États-Unis.
Et ben voilà, donc 300 postes d'ici la fin de l'année, 300 postes supplémentaires d'ici la fin de l'année 2023. Voilà le programme ambitieux chez DeepKey. Comment est-ce qu'on postule, Thomas, si on est intéressé?
Pour postuler, il faut aller sur le site de DeepKey. Pour ceux qui nous écoutent à la radio, DeepKey, DeepKey. Il y a l'onglet en haut à droite à propos et puis careers at DeepKey, les carrières chez DeepKey, c'est là où vous pourrez retrouver les offres d'emploi qui sont déjà postulées. On vous met le lien sur notre page LinkedIn, notre compte Twitter et notre page web.
On retrouve ça ici quelques instants, évidemment. Merci beaucoup, Vincent. Merci d'être passé nous voir. Vincent Briand, fondateur de DeepKey, avec nous sur BFM Business. Merci, à très vite. Avec plaisir. Midi 49, je vous donne les modalités pour nous écrire, nous poser des questions, nous faire des offres d'embauche comme tous les jours. Hashtag BFM Business avec vous, les réseaux sociaux. Avec vous, at bfmbusiness.fr, l'adresse internet. Le site bfmbusiness.com et je vous rappelle que tout ça c'est totalement gratuit. Thomas, on continue de recruter en direct évidemment.
On continue de recruter, on reste dans les... Alors là on est dans les services informatiques avec Patrice Barbedette, bonjour.
Bonjour. Bonjour
Patrice, bienvenue.
PDG de Easy Vista, éditeur de logiciels, de support, de gestion IT, les services informatiques dont vous avez obtenu la charge il n'y a pas si longtemps que ça, finalement. Exactement. C'est vous qui allez être chargé de déployer la nouvelle stratégie pour doubler le chiffre d'affaires. C'est ça les objectifs?
C'est exactement ça. On a l'objectif d'ici jusqu'en 2025-2026 de doubler le chiffre d'affaires. On est aujourd'hui à peu près à 42 millions. Enfin, on a fini 2021 autour de 42 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et l'objectif, c'est d'arriver à doubler ce chiffre d'affaires sur les années à venir.
Easy Vista, qui existe depuis 1988. Vieux maintenant presque pour les services informatiques, 400 salariés, une grosse entreprise. Aujourd'hui, que recherchent vos clients, les entreprises pour lesquelles vous travaillez en termes de services informatiques?
Donc, aujourd'hui, typiquement, ce que vont rechercher les directions informatiques, les DSI et puis aussi leurs équipes, c'est d'avoir une plateforme qui va leur permettre de gérer l'intégralité de leurs besoins, de la gestion des grosses infrastructures, typiquement les data centers, leur cloud, jusqu'à l'expérience du collaborateur, de l'utilisateur, et en passant par des grands projets de transformation. Je pense qu'aujourd'hui, très clairement, il n'y a aucune entreprise qui fonctionne sans informatique. Ouais. L'informatique, c'est vraiment le cœur du réacteur. Et l'objectif, c'est qu'on puisse aider les directions informatiques à opérer toute la complexité, se rendre quasiment invisible pour que tout se passe bien et que, in fine, l'expérience du collaborateur, du end-user, de la personne que ces DSI recrutent, ça se passe bien.
60 recrutements prévus au niveau mondial, dont 45 en France. Pareil, même punition en une minute, Patrice, expliquez-nous les profils que vous recherchez.
Alors typiquement, ce qu'on recherche, ce sont des développeurs.
Là, c'est la guerre. Hein.
C'est un petit peu, on est sur un marché tendu. Moi, ça fait 20 ans que je suis dans des postes de direction d'entreprise. J'étais entrepreneur et ça a toujours été très compliqué de recruter des développeurs. On est beaucoup à chercher à les recruter. Donc, on veut des développeurs. On a de belles équipes déjà, que ce soit en France, aux États-Unis, dans l'Europe du Sud. Donc, on souhaite encore augmenter ces équipes. On fait pas mal de travail sur l'intelligence artificielle. Donc, je pense qu'on a aussi un pôle d'attractivité assez intéressant en termes de sujets qu'on a adressés. Et puis aussi, quelques profils plus commerce, conseil, déploiement des solutions.
Donc c'est ça pour attirer aujourd'hui ces talents qui se font rares, c'est de leur proposer des nouvelles expériences sur lesquelles ils pourront travailler, des nouvelles missions sur lesquelles ils pourront travailler l'innovation.
Exactement ça, c'est-à-dire que comme vous l'avez dit, effectivement la société elle a un existant, mais elle a aussi évolué et accompagné les évolutions technologiques. Donc aujourd'hui on s'appuie sur des technologies extrêmement récentes et donc on est capable de proposer un panel de technologies sur lesquelles travailler aux développeurs et normalement c'est intellectuellement extrêmement intéressant.
Des développeurs, des chefs de projet, des techniciens support, contrôleur de gestion aussi chez Easy Vista, 60 recrutements. Vous êtes à Noisy-le-Grand, mais il y a des postes à pourvoir, vous l'avez dit, aux États-Unis, en Europe.
Alors, effectivement, on est à Noisy-le-Grand, je dirais, sur la région parisienne. En France, on a un gros pôle à Grenoble et à Nantes. Donc, au-delà du job, il y a la mer et la montagne.
Très bien.
Et puis, on est présent aux États-Unis, on est présent en Europe du Sud, avec des effectifs assez conséquents. Aux États-Unis, il y a à peu près une centaine de personnes. Donc, je dirais qu'en termes de taille critique, sur les différents endroits dans lesquels on est présent, on a vraiment une dimension intéressante.
Comment est-ce qu'on postule, Thomas, alors ?
Alors, pour postuler, on peut écrire de la part de BFM Business à Elisa Marienne, Marien, easyvista.com, easyvista comme facile et vista.com. On postule en ligne, on vous tient informé. On vous met le lien, bien sûr, sur notre page LinkedIn, notre compte Twitter, notre page web BFM Business.
Vous retrouverez tout ça, effectivement, sur tous ces liens d'ici quelques minutes. Merci beaucoup, Patrice.
Merci.
Merci beaucoup d'être passé nous voir. Patrice Barbedette, PDG de easyvista, avec nous aujourd'hui sur BFM Business dans 60 minutes business. Merci beaucoup d'être passé nous voir. Vous nous tenez au courant, évidemment. On vous souhaite de trouver les talents dont vous aurez besoin. Merci infiniment. Voilà, midi 53, c'est terminé pour aujourd'hui, mon cher Thomas. Demain, c'est samedi. Après-demain, c'est dimanche.
C'est le
best-of avec Aurélie Pasquier. Puis on revient lundi.
On revient lundi. On passe la semaine ensemble, d'ailleurs.
C'est très bien.
Et lundi, nos auditeurs en sont friands. C'est les rafales de questions de droit social.
Ça sera une rafale lundi à partir de midi et demi. Et puis les QR codes, je ne sais pas si... Voilà, les voici, vous voyez. On a pris le pli. Si vous voulez retrouver l'ensemble des interviews de 60 minutes business et de BFM Business avec vous, vous flashez le petit QR code que vous voyez à l'écran et vous arrivez sur la page des replays dans leur ensemble. Voilà, midi 54, Nicolas Dos arrive dans quelques minutes. D'abord, c'est la France qui bouge avec Alexandra Paget. Bon week-end sur BFM Business. À lundi pour nouvelles aventures.
BFM Business, 60 minutes business, la France qui bouge.
Nous sommes en plein Marais, le quartier historique des Orfèvres à Paris. Et s'il n'en reste qu'un, en tout cas l'un des derniers, à concevoir, rénover et produire de l'argenterie de façon artisanale, c'est bien Richard Orfèvre, dont l'atelier se trouve au fond de cette petite cour du 3e arrondissement depuis 112 ans. Marie-Jeanne Rousselet est antiquaire et expert. Elle travaille très régulièrement depuis des années avec Richard Orfèvre et confie à l'atelier des objets anciens en argent à faire déposseler, réparer, réargenter, voire regraver.
Pour la belle argenterie ancienne, il y a toujours un marché d'amateurs. Ils achètent des objets anciens, ils les veulent évidemment en parfait état. Beaucoup de timbales, de rondes serviettes aussi, des objets anciens de belle orfèvrerie, parce qu'il y a encore des gens qui font des très belles tables ou qui aiment tout simplement l'argenterie ancienne.
Antiquaire, marchand d'art, cela c'est le courant d'affaires réparation. S'y ajoutent les institutionnels, comme par exemple pour la coupe Suzanne Lenglen. Jean-Pierre Côté-Dubreuil, qui a appris son métier chez Richard Orfèvre et racheté l'entreprise il y a 10 ans, réalise chaque année la copie miniature de la coupe remise à la vainqueur de Roland Garros en argent massif.
Sur une petite structure comme Richard Orfèvre, on a un panel à la fois de clients et de savoir-faire très très large, d'antiquaires, de marchands d'art, d'institutions, d'événements sportifs ou autres, qui régulièrement font faire répondre à des projets sur mesure ou exceptionnels. On a également une grande part de clients particuliers qui, quand même depuis maintenant 112 ans, depuis la fondation de la maison, nous suivent de génération en génération. Alors les modes ont énormément changé, c'est pour ça que depuis les années 70-80, l'activité de l'orfèvrerie a quand même été énormément en baisse. Depuis la dernière pandémie, on a des personnes qui sont retrouvées à recevoir plus régulièrement chez eux et à avoir une envie de changer leur vaisselle ou d'acquérir de beaux objets.
L'avenir de Jean-Pierre Côté-Dubreuil et de Richard Orfèvre passe aussi désormais par un site de e-commerce dont l'activité a bondi pendant les confinements et par la création originale de pièces d'orfèvrerie d'exception, numérotées et signées, des paires de flambeaux en verre de Murano et argent recouvert d'or, par exemple, nés d'une rencontre avec Venise et un maître verrier.
60 minutes business. Toute l'info éco et business à la mi-journée sur BFM Business.